Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Edgar, comment vas-tu ?
Salut Bart, je suis en pleine forme, je te remercie.
Eh ben, écoute, ravi d'entendre ça. Moi aussi, je suis en pleine forme. C'est la nouvelle année. Les nouvelles résolutions sont passées, les fêtes sont passées, les objectifs pour 2022 sont clairs. Donc, moi, je suis plein de bonnes énergies et je suis très très content de commencer l'année 2022 avec toi, parce que t'es un grand champion que mes parents ont vu à Albertville quand j'avais 2 ans. Je crois que moi j'étais encore avec j'étais avec ma grand-mère et du coup je crois que t'es le seul champion que mes parents ont vu gagner en direct. Du coup, très jeune, j'ai entendu parler de toi, donc il y a un petit peu de Madeleine de Proust ce matin, je te le cache pas.
C'est sympa. 30 ans Albertville hein. Cette année, on va fêter les 30 ans de cette médaille, ouais.
Ah, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces 30 ans ?
Je trouve que j'ai beaucoup de chance et j'ai plein de choses. Donc, si tu peux, enfin, me souhaiter simplement de pouvoir le partager le plus possible, partager cette chance et voilà, le plus possible avec les gens qui me font confiance. Déjà, je serai dans ma mission, on va dire.
Bon, bah super. Bon, on va reparler de mission de vie, on va reparler de ta mission un petit peu plus tard. Mais comme je te le disais, dans ce podcast, on aime bien commencer par l'enfance, savoir un petit peu qui étaient les champions quand ils étaient plus jeunes, et notamment de voir un petit peu s'il y a des signes avant-coureurs dans la jeunesse d'un champion avant que justement il performe. Et la question traditionnelle, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Mon premier souvenir de sport, il a en fait un lien avec l'olympisme, un lien très charnel avec l'olympisme, parce que mes parents travaillaient pour Jean Vuarnet, qui était champion olympique de ski, de descente, en 1960 à Scovalet, aux États-Unis. Et mes parents, en fait, tenaient son magasin de sport dans la station que Jean, avec une autre personnalité du monde des affaires, Gérard Brémond, qui est le fondateur de Pierre et Vacances, avait créé, en fait. Donc, Jean Vuarnet était de Morzine. Avoria, c'est au-dessus de Morzine, et Jean avait cette idée un peu folle de faire une station de ski à Avoria sur cet espace qui est situé entre des falaises avec une architecture un peu dingue, et puis un téléphérique, quelques bâtiments, quelques appartements, magasin de sport, et il avait son magasin de sport sur la place du téléphérique. Et voilà, mes parents en fait s'étaient retrouvés là, et Jean Vuarnet leur avait confié la gestion de son magasin de sport. Et je me souviens très bien, dans ce magasin, il y avait une vitrine avec les médailles de Jean Vuarnet, notamment la médaille des Jeux Olympiques. Et c'était pour moi assez étonnant de voir, j'avais 4 ans, 5 ans, à quel point, en fait, tous les gens qui passaient dans le magasin de sport s'émerveillaient devant cette médaille, et le regard aussi que mes parents avaient quand ils parlaient de Jean Vuarnet comme un héros, un grand champion, quelque chose qui, moi, me paraissait complètement inaccessible, parce que dans le regard de mes parents, à cet âge-là, j'étais pas un héros. mais c'était chouette, quoi. C'était chouette de voir cette fierté. Mes parents étaient hyper fiers de travailler pour Jean Vuarnet. Donc, c'était chouette de voir cette fierté, c'était inspirant. Et puis, de voir aussi l'admiration qu'on pouvait avoir pour quelqu'un qui avait ramené un petit bout de métal doré comme ça à la maison. Et voilà, au-delà de ça, Jean Vuarnet, c'est aussi quelqu'un qui a réussi dans les affaires, dans les lunettes, c'est un bâtisseur, parce qu'une station de ski, ça se fait pas tout seul. Donc voilà, c'était pas qu'un champion, et je trouvais ça vraiment moi, quand j'étais gamin, j'étais très impacté par la relation que mes parents avaient vis-à-vis de ce gars-là, et je pense que ça m'a forgé d'une certaine manière le rêve de vouloir faire du ski, faire du sport, et puis aller au plus haut niveau dans le sport.
Ok. Et c'est marrant, parce que est-ce que tu penses que l'enfant Edgar, il retenait surtout la médaille olympique, et il voyait peut-être moins la carrière entrepreneuriale qu'avait pu avoir un Jean Vuarnet, et peut-être qu'on le voit un peu plus tard la partie business?
Oui, j'étais pas capable de l'apprécier le côté business. Moi, j'étais plutôt capable d'apprécier le côté champion ski, parce que je voyais, c'était à travers cette médaille, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de symboles. Et puis, mes parents étaient passionnés de ski. Mon père était moniteur de ski. Mon père avait aussi, gagné ce qu'on appelle, le challenge des moniteurs. Donc, c'est une sorte de championnat de France des moniteurs de ski. C'était des passionnés. Et puis moi, j'habitais là, et j'habitais dans cet environnement, c'est-à-dire un environnement où c'est une station sans voiture, donc le moyen de déplacement le plus simple, c'est un ski ou en après-ski, mais en ski. Puis nous, quand on était gamins, je dis nous parce que j'étais avec une bande de gamins de la station, Et ben on se déplaçait en ski pour remonter. Soit on prenait un télésiège, soit on prenait, on s'accrochait derrière les traîneaux qui étaient tirés par les chevaux. On se prenait des coups de fouet parfois par le cocher parce que il aimait pas qu'on s'accroche derrière son traîneau, mais on arrivait comme ça en douce, puis on se foutait à quatre pattes accroupies en fait, pas à quatre pattes mais accroupies derrière le traîneau, puis on s'accrochait pour qu'il nous pour remonter en fait en haut de la station. Et on était les sales gamins de la station, mais on était toujours on était toujours skié au pied, on baignait là-dedans quoi.
Ouais, ok. Et du coup, ça t'est venu très tôt l'idée de, malgré effectivement toutes ces petites bêtises et effectivement le groupe de copains avec qui on fait des conneries, ça t'est venu assez tôt l'envie de performer et de faire de la compétition?
En fait, à 5 ans, j'ai participé à la course des parents d'élèves. Et ma mère qui m'avait annoncé, quand elle m'avait dit je t'ai inscrite et va faire la course des parents d'élèves. Elle avait dit ça avec une telle un tel appétit dans le regard comme ça, je me suis dit oulala, mais en fait c'est sérieux, il faut que je cartonne quoi, enfin il faut que ça marche. Et je sais pas, comme si elle avait une attente là derrière. Et puis mais j'étais assez angoissé parce que un slalom, moi j'avais jamais fait. J'ai jamais pris un cours de ski en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à l'âge de 10 ans, j'avais jamais pris un cours de ski. J'ai jamais eu d'entraîneur, j'ai jamais eu de moniteur. Et mes parents, qui étaient des dingues de ski, mon père était moniteur, mais jamais mon père m'a donné un conseil. Mes parents m'emmenaient skier, c'était tu nous suis, puis si tu te pètes la gueule, t'as intérêt à te dépêcher à te relever parce que nous, on va pas s'arrêter. Et donc, c'est pour ça que je dis souvent maintenant avec le recul, je dis mon père m'a pas appris à skier, mais il m'a appris à me relever vite, ce qui est déjà pas mal dans la vie. Et donc, j'étais un autodidacte, tout simplement. Mais il faut une technique pour skier dans les piquets. Je l'avais pas. Et du coup, j'étais un peu angoissé parce que je voyais les attentes de ma mère et de mes parents qui étaient assez élevées pour un truc sur lequel j'avais pas la technique. Et du coup, il y avait quand même le grand champion qui était souvent un peu dans les parages. Et je suis allé le voir. Et mon premier problème, c'était que j'avais des skis qui avançait pas, qui glissait pas, parce que mes skis, à force d'aller skier dans la forêt, d'aller sauter, de retomber dans les rochers, les quarts qui étaient abîmés, les semelles qui glissaient pas trop. Donc, je suis allé le voir et je lui ai dit, est-ce que tu peux faire mes skis pour que ça aille aussi vite que quand t'as gagné ta médaille? Tu vois, il s'est marré. Du coup, il a pris la paire de skis, il l'a donné au skiman du magasin de sport, qui était en l'occurrence, il me semble, c'était son préparateur de ski quand il courait. Il a dit, tu me les fais comme si c'était les miens, tu vois. Et là, je me suis dit, ouais, c'est bon, je vais avoir une bonne paire de skis. Et puis, quand il m'a rendu les skis, je lui ai dit, mais comment tu fais pour skier entre les piquets? Et il m'a dit, parce que, tu sais, on n'arrêtait pas de faire des conneries, nous, on était gamins, on s'accrochait derrière les traîneaux. Quand on était sur les pistes de ski, on faisait ce qu'on appelait l'escadrille hurlante, c'est-à-dire on était les uns derrière les autres et puis on visait les touristes et on tournait autour d'eux le plus vite possible en hurlant miaou, tu vois. Et notre but c'était que ils tombent parce que nous on marquait des points quoi. Donc tu vois, on s'amusait à ça. Donc on était 4-5 les uns derrière les autres, miaou, à slalomer comme ça entre les touristes. Et puis Jean Vernet, dans la bande, il y avait son fils, donc il savait un peu ce qu'on les conneries qu'on faisait, il les connaissait, tu vois. Et puis il m'a dit, les piquets, tu verras, c'est plus facile parce que c'est plus facile que les touristes parce que ça bouge pas, tu vois. Et donc là, je me suis dit, ok, d'accord, bon, j'ai des bons skis, j'ai un tips pour la technique. J'y suis allé et j'ai gagné. Et je gagne la course des parents d'élèves dans la catégorie biberon. Je suis premier biberon. J'ai encore la médaille avec moi, là. C'est assez rigolo. Et quand je suis rentré, en fait, avec la médaille, ma mère était super contente. Et je me suis, je pense que là, ça a formalisé un peu plus le rêve parce que je me suis dit, j'ai jamais vu dans son regard autant de fierté, que quand j'ai ramené cette médaille. Et cette fierté, évidemment, je l'avais pas quand je revenais de l'école avec des punitions, quoi. Donc, en fait, ce moment-là, il a été pour moi assez fondateur. parce que je me suis, enfin, je pense que c'est là que je me suis dit, ben, si je veux avoir le quelque part le la validation, les encouragements, la attirer l'intérêt de mes parents, ce qui pour moi quand t'as 5-6 ans, tu vois, c'est quand même important, tu vois, c'est quand même pas, enfin, tes parents, c'est tes parents, tu vois, tu leur tu quelque part c'est un peu les dieux, quoi, ça c'est ta référence. Ben, si je veux qu'ils me valident, faut que je sois champion de ski, quoi. En tout cas, c'est quand je suis champion de ski que le regard est positif. Et je pense qu'à partir de là, inconsciemment, j'ai commencé à plutôt investir mon temps et mon énergie dans le ski qu'ailleurs.
Ok, mais c'est hyper intéressant que t'aies fait cette introspection là. Tu vois, je pense que on n'a pas tous des souvenirs aussi marquants à 5 ou 6 ans. Effectivement, moi aussi, j'en ai beaucoup dans le sport. Mes parents venaient me chercher. Je me souviens, je faisais du judo. Pareil, j'avais gagné une petite compète, quoi, de l'école, et je chantais effectivement les yeux qui brillent des parents, et on sent qu'on attire, mais tout le monde ne se souvient pas et n'a pas des souvenirs aussi forts. Et j'ai l'impression que t'as quand même été casse-cou longtemps et t'as été un petit peu fâché avec l'école pendant un petit moment, que ça a duré un peu. Bon, j'aimerais un petit peu que tu me racontes et que tu rentres un peu en détail là-dessus, mais est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a dit, ok, à partir de maintenant, il faut être sérieux à l'entraînement. Si j'ai envie d'être un champion, il faut peut-être passer à la barre supérieure. Peut-être que bon, il s'est passé sûrement des années et des années entre ce petit souvenir et un potentiel déclic. Mais est-ce que t'as un fait marquant aussi comme ça?
Ouais, j'ai vécu des choses. Évidemment, tu sais, il y a des fois j'allais au ski parce que j'adorais ça. Il y a d'autres fois c'était pour fuir l'école. Je me souviens très bien, tu vois, après les affaires, enfin mes parents commençaient à faire des affaires, s'associer avec Jean-Vier Arnais d'ailleurs, et puis faire des affaires, et on a dû déménager du coup parce que les affaires ça se faisait plutôt en ville, et ils ont décidé de venir vivre à Annecy parce que voilà, c'était compliqué de le faire de Morzine ou d'Avoria, et donc commencer à importer des marques de vêtements de sport pour les distribuer sur la France, des marques italiennes pour les distribuer sur la France. Donc, ils avaient besoin de bureaux, de locaux. Et du coup, j'ai été déraciné d'Avoria, de Morzine, Avoria, où j'allais à l'école en ski, où je faisais du ski, quand j'allais pas à l'école. Bref, c'était, voilà, toute ma vie, elle tournait autour de ça, mes potes aussi et tout ça. Et je me suis retrouvé à Annecy avec finalement des gens urbains. À l'école, voilà, où j'y allais à pied, puis le ski, c'était un peu, voilà, c'était la passion finalement qui s'arrêtait. Et puis l'école aussi qui prenait aussi un peu plus d'importance, tu vois, c'est CM1, CM2. Et je me souviens une fois, je crois que c'était en CM1, la maîtresse qui était une femme assez autoritaire s'était mis juste derrière moi pour corriger, pour faire la correction d'une dictée, et moi j'avais tellement de fautes dans ma dictée qu'à chaque fois elle relevait une faute, elle me mettait une grosse claque par derrière dans la tête, et j'étais comme ça, hein, j'avais ma tête entre mes mains et je prenais des claques toutes les 30 secondes, un coup à droite, un coup à gauche, mais je m'en souviens, j'avais les larmes aux yeux et tout, et j'entendais mes gros pirons, tu comprends rien, et là c'est typiquement le genre de situation où je me disais je suis pas fait pour ça, faut vite que j'aille skier, et puis voilà, c'est en tout cas c'est pas à l'école que je trouverais ma voie. Et puis ça c'est une anecdote qui m'a vraiment marqué. Après, il y en a d'autres et un peu moins marquantes où je me sentais pas forcément en phase avec les gens avec qui je vivais à Annecy, ces urbains-là. Et puis après, parce que voilà, j'étais un peu sauvage, moi, la montagne, voilà. Et puis une autre anecdote, c'est un peu plus tard où j'étais au collège et où là, pour moi, c'était déjà un peu plus clair que le ski allait de toute façon allait m'occuper parce que au collège, en même temps que j'étais au collège, j'étais au club des sports à la Clusaz pour le coup, et puis j'avais commencé le ski de bosse, puis je trouvais ça sympa, Et ça me plaisait, du coup, voilà, un coup au collège, je me suis fait convoquer par la conseillère d'orientation qui m'avait dit, mais gros Piron, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Je lui ai dit, vous, j'en sais rien, mais moi, je vais être champion du monde de ski. Tu vois, je lui avais répondu ça, mais comme ça, tu vois, sans... c'était parce que, pour moi, c'était l'exutoire, le ski, c'était la fuite. Mais voilà, le bon exutoire, la bonne fuite, parce que de toute façon, je voyais bien que j'étais pas scolaire, j'étais pas fait pour ça. Puis je voyais aucun espèce d'avenir à faire des études, tellement ça me plaisait pas, tellement j'avais envie d'être dehors et j'avais envie de bouger, j'avais envie de dépenser mon énergie à autre chose. Et j'avais de l'énergie physique à dépenser, c'était pas de l'énergie intellectuelle à réfléchir. Ça, j'avais un capacité de concentration très limitée et je comprenais assez vite les choses, mais ça, je les oubliais aussi vite que je pouvais les comprendre, et donc ça m'amusait pas. Et du coup voilà, quand j'ai fermé la porte, c'est marrant parce que quand j'ai fermé la porte de son bureau, j'ai levé la tête, puis il y avait son nom, et que je connaissais évidemment, hein, Madame Lafaille, et je me suis dit ben c'est pas avec elle que je trouverai la force, tu vois. Et donc ça m'a vacciné en fait, vraiment. Et peu de temps après, mes parents m'ont dit, Edgar, faut que tu fasses un choix, quoi.
Ok.
Et donc moi, je savais, pertinemment entre quoi et quoi. Puis je savais qu'est-ce que je voulais faire. Et mon père m'a dit, tu réfléchis, puis tu vas en parler à ta mère. Puis moi, je suis allé voir ma mère, je lui ai dit, je veux faire du ski, tu le sais. Et j'ai entendu mon père dire, ça sera pas une perte pour la science. Tu vois. Donc, c'était pas très sympa, mais c'était assez objectif. C'était, voilà. Et quelque part, c'était sa façon à lui de me dire, ok, c'est ton choix. Et, on va te soutenir, quoi. On te fait confiance dans ce choix-là, tu vois. D'ailleurs, je lui ai dit, c'est pas sympa de dire ça. Il m'a dit, c'est pas le sujet d'être sympa ou pas sympa. Le sujet, c'est que maintenant, t'as choisi, tu dois réussir parce qu'à 18 ans, on te foutra dehors, de toute façon. Ouais. Et là, je suis retourné voir ma mère. Je lui ai dit, attends. Et ma mère m'a dit, écoute, on va réfléchir à un plan B si jamais ça coince. Et comme ça, tu seras armé. Et je suis remonté dans ma chambre. Et là, j'étais partagé. Honnêtement, j'étais partagé parce que j'étais à la fois hyper heureux de cette confiance, de ce choix, de cette responsabilité qui était la mienne, mais j'étais angoissé par l'issue. Est-ce que j'allais y arriver? Parce que quand mon père me dit, t'as intérêt à réussir parce qu'à 18 ans, on te fout dehors, réussir, je sais pas ce que ça voulait dire pour lui. Mais pour moi, ça voulait dire être le meilleur skieur du monde parce que c'était mon rêve de gosse. Et j'avais 14 ans. Et j'étais 150e mondial. Je veux dire, j'apparaissais même pas au classement mondial dans les boss. Et donc, je me suis dit, j'ai 4 ans pour devenir numéro 1 mondial. Tu vois, je me suis dit, waouh, ça va être monstre chaud, là. Et je me suis dit, ouais, mais tu vois, donc, j'ai la confiance, j'ai la peur, mais j'ai la confiance et il va falloir que je construise petit à petit. Et franchement, je remercie mes parents parce que d'abord, ils m'ont pas donné de conseils, que je leur ai pas demandé d'ailleurs. Donc, ils m'ont pas donné de conseils. Ils m'ont créé, ils m'ont laissé libre de prendre ma vie en main. Ils m'ont responsabilisé par rapport à ça. Mon père a été hyper exigeant. Ma mère a été protectrice parce que le plan B, c'est une manière d'être protectrice. Mon père, en me disant t'as intérêt à réussir, c'est une manière d'être exigeant. Et ils ont jamais remis en question ce choix. Ils m'ont jamais dit mais t'es sûr. Ils ont été et je pense qu'ils ont été pour moi hyper courageux parce que le ski de boss à cette époque-là c'était un sport mineur, confidentiel. Personne n'en vivait, personne n'avait réussi à faire carrière, personne ne pouvait prétendre à vivre de ce sport-là.
C'est à Berville, la première édition, d'ailleurs, du ski de boss aux Jeux Olympiques.
Quoi. Ce sport était pas olympique quand j'avais 14 ans. Il était pas olympique. Personne en vivait. Il était confidentiel. Donc, mes parents ont quand même eu vraiment, vraiment, de l'audace à ce moment-là. Et j'ai pu le mesurer aussi parce que mes copains qui faisaient le même sport, quand on partait en course, Des fois, c'est les parents de mes copains qui nous emmenaient en course, ou j'allais dormir chez mes copains à la Clusaz ou avant une course. Et j'entendais souvent dire non mais toi tu passes ton bac d'abord, tu vois. Parce que moi je disais parce que les parents souvent la question qu'on pose et tu feras quoi quand tu seras grand, tu vois. Et moi je disais champion du monde de ski de boss, tu vois. Et là ils se tournaient vers mes copains puis disaient toi tu passes ton bac d'abord, tu vois. Son père lui dit, enfin sa mère lui a dit tu seras avocat comme ton père, tu vois. Et il est avocat aujourd'hui, hein. Mais c'est et tu vois dans leur quelque part je voyais dans leur regard, comment dire, l'approbation, c'est-à-dire, oui, je vais faire ce que vous me dites de faire, mais j'ai pas vu le bonheur, tu vois, j'ai vu l'approbation et d'une certaine manière presque un peu de frustration parfois parce que c'est des gamins qui aimaient bien le ski, qui étaient bons en plus et qui auraient très bien pu faire une carrière plus brillante que la mienne. Il y avait pas de raison à ce que, mais voilà, leurs parents ont pas toujours fait ce qu'il fallait pour les aider à prendre leur vie en main et voilà. Et mon voilà, après ça fait des copains, enfin tu vois, mon copain il est avocat, mais pour lui si tu veux, c'est un avocat moyen dans une ville moyenne qui fait un job qui lui plaît moyennement, mais quelque part il est en phase avec les attentes de ses parents et puis ça lui convient comme ça et il vit une vie qui est pas, enfin qui l'exalte pas au plus haut point et c'est là que voilà. Et c'est là que quelque part, je me dis, putain, le rôle des parents, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est...
Ouais. Ouais, bah, comme tu l'as dit, si ce copain, finalement, en fait, il a retrouvé dans les yeux de son père et de sa mère les petites étoiles que toi, t'as eues quand t'as eu ta première médaille biberon du slalom, bah, peut-être que finalement, ça le rend quand même en partie heureux et ça lui donne une partie d'accomplissement, mais.
Ah ouais, non, il est pas malheureux, il est pas pauvre, tu vois, il vit correctement, il est pas pauvre, il est pas voilà, mais tu sais, il y a souvent les gens, j'ai des gens qui me disent moi je suis passé à côté de mon rêve ou je suis passé à côté de ma passion justement pour faire plaisir à mes parents ou or si tu veux je pense que le chemin de vie qui appartient à chacun, c'est un moment justement de s'émanciper du regard des parents et donc de s'extraire en fait de ça. Les parents sont là pour t'aider, te former, te transmettre des choses telles que des valeurs, tu vois, une éducation, des moyens. Mais à un moment donné, tu dois te prendre en main. Et c'est ta vie, c'est pas la leur. Et tu vis pas pour eux par rapport à eux. La difficulté dans la relation entre un parent et un enfant, c'est que en fait, il y a une relation parfois. Enfin, il y a beaucoup d'amour entre un parent et un enfant. Mais c'est pas l'amour qu'on porte à un conjoint. C'est pas le même amour. Un enfant, tu l'aimes pour qu'il prenne son envol. Moi, ma femme, je l'aime pas pour qu'elle se barre. C'est pas la même chose, tu vois, c'est pas le même amour. Ouais, mes enfants, je les aime pour qu'ils... Mais j'essaye leur donner une éducation pour qu'ils s'en aillent à un moment donné, pour qu'ils vivent de leur propre... enfin, qui s'envolent et qui prennent leur envol et qui prennent leur vie en main et qu'ils le fassent conformément à leurs envies et leurs passions, pas les miennes. Et ça, c'est dur parce que quand t'as des enfants qui te disent, ouais, je veux faire, je veux faire du ski de boss ou du développement durable et que toi, tu vois pas forcément des débouchés, et ben, en fait, c'est toi qui es confronté, c'est pas eux. Ouais. Un gamin à 15 ans ou à 20 ans, il a l'énergie pour bouffer le monde. Et si on se rappelle un petit peu de l'énergie qu'on avait quand on avait 15-20 ans, on avait l'énergie pour bouffer le monde. Et quand on est parent, qu'on a 40, 50, enfin moi j'ai 50 et j'ai deux petits garçons qui ont 2 et 4 ans aujourd'hui, puis j'ai deux grandes filles qui ont 20... Alors, ah bah c'est chouette parce que ma deuxième, elle a 22 ans aujourd'hui. Et 24... 24-22, tu vois, tu te dis, c'est leur vie, et toute façon, tu feras pas à leur place, c'est pas la tienne, c'est la leur, et ils peuvent faire des choix, qui sont pas conformes à tes aspirations, Et parfois, le pire, c'est quand t'as des parents qui ont pas réussi à réaliser leurs rêves et qui finalement projettent sur leurs enfants leurs incapacités, et qui leur disent soit dans une motivation de revanche, tu vas faire ce que j'ai pas réussi à faire. Enfin, tout ça est implicite. Soit dans une peur.
Ça fait des grands champions aussi, hein.
Ça fait des grands champions. Mmh. Mais, ouais, mais ça suffit pas. Soit dans, ouais, mais parce que, enfin, on peut en reparler, hein, Bartoli, etc. Soit dans une motivation de peur, donc et tu feras jamais ce que j'ai jamais réussi à faire, tu vois. Et donc en fait ça conditionne des gens, mais ça les frustre. Et puis au final, l'enjeu c'est que les gens, c'est qu'ils soient heureux et équilibrés. Il y a rien de plus, il y a rien d'autre en fait. Être champion olympique, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'être heureux. Et si jamais un jour t'es champion olympique parce que t'aspires à ça, ben très bien. Mais si t'aspires à être directeur marketing d'une grosse boîte, ben très bien. Si t'aspires à créer ta boîte, très bien. Je veux dire, l'essentiel, c'est d'aller vers sa zone d'accomplissement la plus grande. La plus totale, vers sa mission de vie, tu vois, c'est de tendre vers ça. Et c'est même le plus beau, je trouve, c'est que tous les jours dans ce que tu fais, tu accomplis ta mission de vie et que ce soit dans le sport, dans l'entreprise, dans l'associatif, tu vois, le caritatif, la famille, le social, le sociétal, peu importe. Ce qui est important, c'est que chaque action que tu mènes, chaque décision que tu prends, chaque résultat que tu obtiens, ils viennent quelque part contribuer à faire mettre au jour, faire accoucher de ta mission de vie, quoi.
Ouais. Ben, je serais curieux de savoir comment, notamment sur ta, on va dire ta deuxième vie ou on va dire ton après carrière sportive, comment est-ce que tu as trouvé ta mission de vie? Et tu vois, je me pose, vu que j'ai vu beaucoup d'athlètes de haut niveau, de champions olympiques qui ont effectivement ont une vie après le sport et qui doivent se reconstruire, je me posais la question, est-ce que c'est plus facile de se reconstruire et de trouver sa deuxième mission de vie, tu vois, une fois que t'as été champion? Et je pense que c'est encore plus dur parce que les gens pensent que t'as déjà trouvé ta mission de vie, tu vois, et que finalement c'est ça peut être plus dur de se renouveler. Donc je sais pas si toi, est-ce que si t'as fait t'as travaillé là-dessus, tu t'es fait accompagner, si t'avais déjà préparé un petit peu ta sortie. Bon, j'ai cru comprendre que t'avais plusieurs modèles qui t'inspiraient, mais tu vois, moi je suis très souvent contacté par des auditeurs qui me disent oui, bah Bart, toi avec ce podcast tu trouves ta mission de vie, t'inspires les autres en interviewant des personnalités remarquables, et j'ai du mal à leur dire, à leur expliquer alors donner des pistes sur comment ils peuvent eux trouver leur mission de vie. Est-ce que toi t'as eu des lectures, des pistes, des exercices, des personnes ou des mantras qui t'ont guidé vers ça?
En fait, si tu veux, bon, la question que tu me poses, c'est voilà, quel a été le chemin pour arriver à ça? Et puis il y a une deuxième question, c'est quoi une mission de vie, tu vois? Ouais. Et je vais d'abord répondre à la deuxième parce que je pense que après ça reviendra sur la première. En fait, souvent les gens, ils associent une mission de vie à je vais changer le monde. C'est-à-dire un objectif mais hyper ambitieux qui finalement, enfin, tu vois, c'est un truc inaccessible.
Ouais.
La mission de vie, enfin, quand on parle de mission de vie, on a l'impression qu'on met la barre tellement haute que c'est totalement inaccessible. D'accord. Et grosso modo, tout ça, c'est inspiré par des discours tels que celui de Martin Luther King, I have a dream, tu vois, c'est je vais changer le monde. D'accord. Et forcément, ça nous renvoie à nos impuissances. Putain, on est des petits bonhommes comme ça, on est des petits bons hommes, des petites bonnes femmes comme ça, on avance, on évolue dans notre vie, puis on se dit pas tous les jours je vais changer le monde. Tu vois. Mais ouais. Il faudrait, et du coup, on culpabilise quelque part de pas réussir à trouver une mission de vie qui soit à la hauteur de nos possibilités ou de notre potentiel. Ouais. Et on se dit, ouais, mais si ma mission de vie, c'est d'inspirer les gens, et ben, finalement, c'est pas assez, quoi. et j'aurais pas, je vais pas laisser une trace, et je vais pas faire ci, et je vais pas faire ça. Et donc déjà, je pense que faut pas avoir il faut pas avoir honte ou il faut pas se méprendre. Avoir une mission de vie, c'est pas nécessairement changer le monde.
Ouais.
Et moi aujourd'hui, je témoigne de ça de manière plus lisible parce que j'ai 52 ans, j'ai du recul sur ce que j'ai fait, j'ai beaucoup travaillé effectivement, j'ai fait de l'introspection, j'ai travaillé avec des gens pour essayer de comprendre un peu tout ça. Ce que je te dis là, je te l'aurais pas dit il y a 10 ans de cette manière-là. Mais déjà voilà, mettre le doigt sur quelque part ta mission de vie. C'est pas aller chercher trop, faut pas aller chercher trop loin. Mmh. Et ce que je me suis aperçu, et tu vois un discours de Steve Jobs, le discours qu'il avait fait à, je crois que c'était à Stanford, hein, où il était revenu et il avait parlé de connecting the dots. J'avais adoré cette formule là, c'est-à-dire finalement tout ce que j'ai fait dans ma vie, toutes mes passions qui en soi étaient assez superficielles, je les ai connectés, puis j'ai créé Apple, puis après j'ai créé Pixar, puis après je suis revenu chez Apple, et puis voilà. DreamWorks, pas Pixar, DreamWorks. Et en fait, ses passions, lui, c'était, il avait une passion pour la calligraphie. Rien à voir avec un ordinateur. Mais il avait une passion pour la calligraphie, il avait d'autres passions, je sais plus vraiment pourquoi, mais... Et je me suis dit, mais comment moi j'ai connecté les dots finalement? Et comme j'ai la chance d'avoir fait un sport médiatisé, enfin qui a été, j'ai été médiatisé à un moment, j'ai pu relire des interviews que je donnais quand j'étais gamin ou voir des. Et en fait, ce qui revenait et j'en avais pas conscience, c'était d'abord prendre du plaisir et ensuite donner du bonheur.
Ouais.
Et c'était en fait les dots que j'ai connectés en fait. Tu vois, j'ai reconnecté les pixels comme ça et je me disais, mais en fait, à chaque fois ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai cherché à prendre du plaisir et à donner du bonheur. Et quelque part, peut-être que ma mission de vie, c'est donner du bonheur. Mon moyen pour le faire, c'est de prendre du plaisir à faire ce que je fais. C'est ce qui me donne de l'énergie pour ensuite, tu vois, quelque part, voilà, c'est ma contribution. Tu vois, ma mission de vie, elle est pas tournée vers moi. Ma mission de vie, c'est pas moi que ça regarde. Ma mission de vie, c'est une contribution que j'amène à ce monde-là. Et je me dis, si à travers ce que je fais, que ce soit du sport ou autre chose, des masterclass en ce moment, des conférences, si dans ce que je fais ou à travers ce que je fais, je peux donner du bonheur aux gens qui m'écoutent, qui me regardent ou qui m'encouragent. Ou qui m'ont fait comme mes parents au début quand j'étais gamin, je suis sur ma mission de vie. Donc tu vois, c'est pas compliqué. Te dire donner du bonheur aux gens qui t'écoutent, qui te considèrent, qui t'encouragent ou qui t'ont fait. Rien que ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais comme disait Mère Teresa, sans cette goutte d'eau, l'océan n'aurait pas la même saveur. J'adore cette réponse. C'est un journaliste qui lui avait demandé, vous trouvez pas que ce que vous faites pour les enfants de Calcutta, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la misère du monde? Et elle avait dit, si, mais sans cette goutte d'eau, l'océan n'aurait pas la même saveur. Je trouve ça, très poétique. Je trouve ça très beau. Eh bien, n'allez pas chercher des missions de vie, à dire, je vais changer le monde, je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai envie de dire, ayez conscience de toute façon, tout ce que vous faites et potentiellement tout ce que vous faites depuis tout gamin renferme quelque chose, cette mission de vie. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais si vous reconnectez les dots, vous allez peut-être arriver à prendre conscience que, en fait, vous faites pas les choses par hasard. Il y a quelque chose au fond qui vous anime. C'est inconscient. Si vous réfléchissez dessus, travaillez un peu dessus, vous allez trouver des réponses qui vont vous paraître peut-être très simples, mais c'est les bonnes. Plus elles sont simples, plus elles sont bonnes. Et c'est peut-être à travers ça, parce que vous le faites depuis longtemps, vous allez passer de quelque chose, vous allez ramener cette inconscience, ces choses inconscientes à votre conscience. Et à partir du moment où c'est à votre conscience, c'est fantastique parce que ça devient une étoile inaccessible. Pour moi, un rêve de gosse, et ça, je suis en train de réaliser cette connerie-là, mais un rêve de gosse, c'est pas accessible et c'est pas fait pour être réalisé. Tu vois, et j'ai cru que j'avais réalisé mon rêve de gosse, par exemple, quand je suis devenu champion olympique, et c'était une erreur, en fait. Ça doit être une étoile inaccessible. Un rêve de gosse, c'est pas fait pour être réalisé, c'est fait pour rester un rêve, quelque chose d'utopique, une goutte d'eau dans l'océan, mais quelque chose qui fait que tu te lèves le matin et voilà. Le rêve de gosse, par contre, c'est ce rêve-là, ce sens-là, cette contribution que tu as envie d'amener. Ce qui est important, c'est que tu la traduises, parce que quand on a conscience derrière, tu as conscience de ton pouvoir et du coup, tu as conscience de ta capacité à traduire dans les projets que tu as, qui eux sont concrets. Tes projets de vie, tu vois, par exemple, je sais pas moi, bah monter une boîte,
déménager,
vivre, voilà. T'es conscient d'en faire du sport, tu vois, devenir champion olympique, tu vois, c'est ta conscience en fait que dans tes projets de vie, t'as conscience de ce sens-là, de cette dimension supérieure, cette ambition, elle a du sens, mais c'est parce qu'elle a du sens que c'est une ambition. Et du coup, en fait, c'est tes projets qui, eux, sont concrets. Et tu réalises à un moment donné le projet. Pour atteindre le projet, tu as des objectifs, tu vois, progressivement, qui te rapprochent du projet. Et à un moment donné, tu atteins tes objectifs, tu réalises ton projet. Et tout ça, c'est voilà, ça contient ta mission. C'est ce qui est puissant. C'est qu'à partir du moment où ta mission de vie est claire, chaque action que tu fais pour progresser vers tes objectifs, pour atteindre tes objectifs, qui vont te permettre de réaliser tes projets. Chaque action est empreinte de ce sens-là et tu sais pourquoi tu te lèves le matin et c'est pour ça que ça change tout. Donc, en fait, ta mission de vie, elle inspire chaque décision, chaque action et elle s'incarne quelque part dans chaque résultat.
Ouais.
Et c'est une goutte d'eau dans l'océan.
c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Et j'ai envie, tu vois, j'ai envie de rebondir justement sur ce point quand tu disais tout à l'heure qu'on s'attend d'une mission de vie qu'elle change le monde et qu'elle soit non pas une goutte d'eau mais tout l'océan. C'est aussi que souvent, des fois, les gens qui vont parler beaucoup de mission de vie, elles ont une mission de vie peut-être très tournée vers les autres et qu'on peut avoir une mission de vie qui est très tournée vers soi. Et ce qui compte, c'est ouais peut-être d'essayer, d'itérer pour essayer de la trouver et de pas forcément avoir envie de... Enfin, tout le monde n'a pas une mission de vie qui va être forcément tournée extrêmement vers les autres. Et des fois, ça peut être beaucoup dans l'introspection ou dans des choses solitaires ou moins tournées vers de la communication aux autres. Et c'est ça, des fois, je trouve qui peut être difficile à comprendre pour certains où justement, on va avoir envie de se caler sur les gens comme toi, peut-être un peu comme moi, qui créent du contenu, qui parlent, qui partagent et que ça correspond pas du tout à tout le monde finalement et qu'il faut... aussi essayer de trouver sa petite goutte d'eau savoureuse quoi. Moi, je me suis un petit peu égaré, ma pensée n'est pas encore construite, j'ai essayé de réagir à chaud, mais en tout cas c'est hyper inspirant. Et toi t'as fait après le moment où tu as annoncé ta retraite, t'as essayé beaucoup de choses, j'ai l'impression. Et qu'est-ce qui, au début, te motivait, en fait, qu'est-ce qui t'a motivé à arrêter alors que t'étais au sommet de ta carrière? T'avais tout gagné, je crois que tu termines tes numéro un mondial à la Clusaz, c'est ça?
Champion du monde, ouais.
Champion du monde, mais je crois que t'avais déjà fait le choix avant d'arrêter. Mais qu'est-ce qui te motive à arrêter et c'est quoi comment est-ce que tu fais pour rebondir après? Pour rebondir et aller chercher, une nouvelle motivation, une nouvelle mission de vie?
En fait, tu vois, ma mission de vie, elle a pas changé. C'est pour ça que je te dis, c'est cette espèce d'étoile inaccessible qui se réalisera jamais parce qu'elle se réalise tous les jours dans des petites actions au quotidien et que j'ai pas envie qu'elle se réalise parce que cette mission de vie, finalement, elle m'est chère. C'est-à-dire, si tous les jours dans ce que je fais, je peux donner du bonheur, très bien. Après, elle se réalise au travers de projets. De projets professionnels, personnels, familiaux, sociaux, sociétaux, tu vois. Et elle va se réaliser à travers des choses que je vais, des choses que je vais créer, des choses que je vais dire, des choses que je vais faire, tu vois. quand t'as conscience de ça, c'est top. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc et c'est là où je trouve que finalement, tu vois, tu peux reconnecter les dots. Et après, bah oui, effectivement, cette mission de vie, elle s'est ou ce besoin ou cette envie, je sais pas, de voilà, de donner du bonheur, de faire en sorte, ça a vraiment inspiré ma carrière sportive, parce que tu vois, ça a inspiré des décisions dans ma carrière sportive. Par exemple, dire 3 ans avant les Jeux Olympiques, vous inquiétez pas les gars, je vais gagner. Tu vois, c'était pour leur dire, le jour de la course, vous allez pas venir voir les Jeux Olympiques en ski de bosse, enfin une épreuve, la discipline du ski de bosse aux Jeux Olympiques. Vous allez venir voir gagner un Français et ça va tout changer, quoi. Ça va tout changer l'expérience. Et le matin de la course, les mecs, ils sont pas venus me dire, oh là là, c'est la course, tu vois, c'est la course d'un jour et ça va être chaud, tu vois. Ils sont venus me dire, putain, Edgar, on est là parce que on vient de voir gagner.
Ouais.
Tu vois, ça change tout, en fait. Donc, ça inspire et les gens, ils sont venus me voir gagner. Donc, tu vois, ils sont venus avec une énergie, un plaisir, un bonheur dingue. Et le fait que je gagne, c'est voilà, ça a confirmé tout ça et ça a donné du bonheur. Quand je fais une conférence dans une entreprise, je fais pas une conférence, tu vois, avec un PowerPoint un peu chiant. Enfin, tu vois, je suis pas un keynote speaker. Non, mais disons que je suis pas un keynote speaker. La même conférence, je pourrais la faire avec un PowerPoint, avec des bullet points, tu vois, avec derrière un pupitre. Mais non, moi, ce qui m'inspire, et c'est toujours inspiré par la même chose, c'est de faire comme un spectacle de stand-up, raconter des anecdotes, des blagues, mais avec ce petit supplément qui est de dire.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Si je suis pas là pour faire rire les gens uniquement, à travers l'émotion que je vais susciter, je suis là pour les faire réfléchir et c'est ce qui va les faire avancer dans leur vie, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire bouger les lignes pour que les gens ils soient plus heureux dans leur job. Tu vois, qu'ils aient une réflexion ou une conscience un peu plus quelque part un peu plus développée. Et là encore, le sport, c'est un super moyen pour inspirer les gens. Donc j'exploite cette valeur ou ces valeurs du sport pour là encore provoquer des déclics, faire bouger les lignes et faire en sorte que les gens ils se questionnent sur la manière dont ils font leur job et ils se repositionnent si c'est nécessaire pour être plus heureux et dans ce qu'ils font et le faire avec plus de plaisir, tu vois. D'ailleurs, je parle beaucoup de plaisir dans mes conférences. Donc en fait, tu vois, cette étoile inaccessible, elle doit la rester, c'est très bien comme ça, mais elle inspire tous les jours tout un tas de choses.
Ouais, OK.
Donc, et que ce soit voilà, aussi dans mes masterclass et dans la manière dont je fais les masterclass aujourd'hui, donc tu vois, je fais hier, on a fait ce que j'appelle des supervisions, c'est-à-dire moi quand je fais une masterclass, quand quelqu'un m'achète une masterclass, il rentre dans mon club, dans ma communauté. Tu vois, il y a un groupe privé Facebook, il rentre dans le groupe privé et là il commence à voir que ça change, ça bouge, ça échange. Hier, et on fait ça 2 fois par mois pour la communauté, c'est réservé aux membres de la masterclass. On fait des lives. J'ai un coach avec moi qui est un gars top, spécialisé en intelligence collective, un mec qui a danseur, tu vois, origine de passion pour la danse, il a un rythme de dingue et il anime en fait des sessions. Hier, on a passé 2 heures une partie de la communauté, on avait 38 personnes qui étaient là et pendant 2 heures, on a fait des trucs et Et on a des retours, tu vois, quand tu te dis tu fais ça pour donner du bonheur aux gens, tu vois, quand t'as quelqu'un qui te dit, moi j'étais, je suis pas toute seule dans ma vie, mais je pensais que j'étais seule face à mon problème, et grâce à vous, puis là elle part en larmes, et puis elle dit grâce à vous, ça change tout, vous changez ma vie, tu te dis, ouais. Wow, alors tu pleures avec, mais tu te dis, bah c'est, voilà, on n'est pas là pour rien, quoi, on se lève pas le matin pour, tu vois, pour rien, ça a du sens, quoi, tout ça. Et ouais. Si je le fais de cette façon-là, si au moment de la masterclass, je leur offre pendant un an l'abonnement à ces lives, c'est parce que voilà, parce que je sais qu'on peut avoir un impact significatif sur la vie des gens, parce que l'intelligence collective peut avoir un impact significatif sur la vie des gens. Voilà. Après, les masterclass, elles sont payantes. Parce que je dois vivre. Si je veux faire du bon boulot, il faut que je puisse en vivre. Mais voilà, c'est juste, voilà, c'est un moyen. Après, le reste, quand je fais des conférences, elles sont payantes aussi parce que c'est mon job, c'est un métier. Et donc, voilà, je fais la part des choses entre, voilà, ce qui me fait vivre. Mais c'est pas parce que, enfin, comment dire, c'est pas parce que je commercialise entre guillemets des conférences, des masterclass ou des contenus. Que derrière, c'est simplement à but commercial, à but lucratif.
Non, mais pas du tout.
But. Enfin, pour moi, ça, tu vois, ça. Oui, c'est une activité professionnelle. Non, mais c'est important, tu sais, parce que dans la reconversion, souvent, c'est un enjeu, tu vois, le fait de trouver un job. Et pour beaucoup, tu vois, ils font faire une conférence ou un truc, ils se disent je vais faire une conférence, mais je vais pas faire payer parce que c'était un sponsor, c'est quelqu'un que je connais, tu vois. Et le pire, c'est quand j'ai des copains athlètes qui me disent non, mais je vais pas faire payer parce que tu comprends. Il me paye le déplacement, puis je vais parler pendant une demi-heure. Donc, tu vois, je dis non, je suis désolé, mais la valeur que tu vas transmettre pendant une demi-heure, c'est 20 ans de travail. C'est 20 ans de sport de haut niveau, c'est 20 ans de travail, tu vois. T'as transpiré pour faire ce que t'as fait. La valeur, elle est là-dedans. Tu vas le synthétiser en une heure ou en une demi-heure. Mais justement, tu te rends compte en une demi-heure toute la valeur que tu vas pouvoir mettre. Et donc, il faut à un moment donné, voilà, il faut que tu aies conscience de ça. Et ouais. Souvent, dans le sport, tu vois, dans une reconversion, on peut avoir un peu une relation à l'argent ou à la valeur des choses un peu biaisée.
Ouais, bien sûr.
Donc, voilà. Maintenant, tout simplement parce que, par exemple, tu as fait un truc, t'en as tiré des revenus, ça a été gratifiant, t'as pris du plaisir, on t'a encouragé. Tu vois, moi, j'ai des gars qui me disent, mais tu te rends compte, je vais pas faire payer pour mon client pour une conférence parce que les gens, ils vont m'applaudir. Tu vois, grosso modo, ils vont pas et m'applaudir et me payer en plus. Tu vois, c'est... Du coup, t'as un rapport peut-être, tu vois, à la valeur de ce que tu es, de ce que t'as fait qui est biaisé.
Ouais, mais je le vois pas mal, tu vois. En discutant avec beaucoup d'athlètes, je me rends compte qu'effectivement, il y a un rapport à l'entrepreneuriat, à la création de valeur qui est un peu particulier, ouais. Et t'as tout à fait raison. En fait, une conférence, en fait, c'est le fruit de des années de sueur, des années, des heures et des heures et des heures d'entraînement qui ont fait que t'es un champion et que t'es fait aujourd'hui crédible pour parler. Donc, rémunérer cette conférence, c'est en fait rémunérer tout le travail qui a été fait avant et qui se fait comme ça, ouais. Donc,
c'est l'honorer ce travail-là, c'est l'honorer, c'est la valeur de ce travail. Et puis, la valeur, elle est pas. Elle est pas tant elle est dans ce que t'as fait, mais elle est aussi, et en grande partie, dans ce que ça va permettre aux gens de faire, parce que t'as fait bouger les lignes.
Ouais,
c'est clair. Tu vois, donc, quand un client, moi, j'ai des clients qui me disent, gars, on a fait les meilleures performances non seulement française, mais européenne, tu vois, avec mon équipe. Et c'est en partie grâce au speech que tu nous as fait parce que tu nous as reboosté, quoi. Et tu nous as donné des clés et on s'est appuyé là-dessus pendant un an et on a tout craqué, quoi. Ouais. Et donc, la valeur, elle est là.
Ouais. C'est aussi. Rien comparé à ce que peut-être tu lui as facturé ou.
Bah, bah, non, voilà. C'est peanuts ce que je lui ai facturé, mais ça, c'est pas, bah, moi, je peux, enfin, oui, je peux pas payer au pourcentage de la valeur créée.
Mais pas très, très bien.
Parfois, ce serait intéressant, mais, c'est, ouais.
Ouais. Mais non, mais c'est ça, c'est effectivement, quand tu mets un prix, effectivement, sur une conférence ou sur une masterclass, c'est aussi, bah, c'est proportionnel à la valeur que tu apportes, c'est proportionnel au travail que toi t'y as mis et l'investissement que t'as mis dedans et aussi à ce que ça peut t'apporter. Et des fois, effectivement, c'est pas grand chose. Et du coup, je suis curieux quand même de savoir, je te posais un peu la question en préambule, je te titillais avec ça, mais peut-être que tu auras une bonne réponse à me donner, c'est que j'avais entendu dans une de tes interviews passées que t'étais pas très copain avec la préparation mentale et que je crois que même la première fois que t'as vu un préparateur mental, tu t'étais plus en train de roupiller que de faire quelque chose que de l'écouter. Aujourd'hui, moi je trouve ton contenu qui est passionnant quand j'écoute tes conférences, quand j'écoute tes prises de parole, à chaque fois effectivement j'ai un vrai coup de fouet et t'as un vrai talent pour ça. Et effectivement tu parles beaucoup de confiance en soi, de motivation. Qu'est-ce qui t'a fait un peu passer de l'autre côté de la barrière, tu vois? J'ai l'impression que pour toi c'est inné et que t'essayes aussi un peu de l'apprendre aux autres, tu vois? Je serais très curieux de savoir un peu comment t'as eu ce changement-là.
Alors il y a deux choses en fait qui m'ont fait passer de l'autre côté de la barrière. La première, c'est d'une certaine manière un besoin de comprendre.
Ouais.
Et puis ensuite. J'ai une décision qui était d'en faire mon métier, en fait, tu vois. Puis après, il y a eu des rencontres avec des gens qui, pour moi, ont été des rencontres clés et qui m'ont vraiment fait basculer là-dedans. Alors, besoin de comprendre pourquoi. Parce que, en fait, quand j'ai mis un terme à ma carrière, je me suis retourné dessus sur les aspects de la préparation mentale et tout, sur lesquels j'étais totalement réfractaire pendant ma carrière. Vraiment réfractaire, ouais. Tu vois.
C'est marrant.
C'est-à-dire, ce que tu racontes, c'est vrai, c'est qu'on était au centre des jeunes travailleurs à Évian en stage de préparation physique. Je vais avoir, 19 ans ou 20 ans. Et on a un préparateur mental, Luc Guibert, qui était venu pour nous faire un speech. Et puis, Nano, qui était notre patron, le patron de l'équipe de France, avait dit… ceux qui ont besoin, ceux qui souhaitent, vous pouvez, on a une ressource, on la met à votre disposition, et si vous voulez travailler avec, il n'y a pas de problème, il est là, il sera à votre disposition. Donc vous venez, il va vous expliquer ce que c'est que la préparation mentale, ce que ça peut vous apporter. Donc on avait un meeting obligatoire qui devait durer une heure ou une heure et demie, tu vois, on pouvait lui poser des questions, il allait nous expliquer ce qu'on faisait. Et moi, avant même le début de la réunion, je suis allé voir Nano, j'ai dit, moi, je vais faire la sieste, j'en ai rien à foutre. j'ai rien à apprendre d'un préparateur mental. Moi, le mental, c'est inné, tu vois. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, moi, je l'ai. Tu vois, je suis né avec, donc j'en ai rien à foutre. Et donc, je préfère aller faire la sieste, je perdrai moins mon temps, tu vois. Il m'a dit, tu viens à la réunion, elle est obligatoire, il n'y a pas de. Et donc je suis allé me foutre au fond de la salle, je me suis collé la chaise contre le, tu vois, j'ai basculé la chaise contre le mur, et puis j'ouvrais un œil de temps en temps, tu vois, je faisais vraiment mon sale gosse, quoi, parce que j'étais un vrai petit con en fait. Et mais ça m'allait très bien, tu vois. Et tu vois, ce genre de choses là, voilà. Après, quand j'ai terminé ma carrière. Et j'ai regardé le palmarès et je me suis dit, quand je me suis retourné sur le palmarès, et ça je pouvais pas le faire pendant ma carrière, je me suis dit, tiens, il y a quand même un truc, parce que j'ai participé 3 fois au championnat du monde, je les ai gagnés tous les 3, j'ai participé 9 fois à la coupe du monde, j'ai fini 8 fois sur le podium, dont 4 sur la plus haute marche. La seule année où je suis pas arrivé, c'est l'année où je me suis blessé. Quand je me suis blessé, j'étais en tête du classement général. Je participais 3 fois aux Jeux. À chaque fois, j'ai ramené une médaille, une fois l'or, 2 fois le bronze. J'ai gagné en moyenne 50% ou à peu près 50% des courses auxquelles j'ai participé. 70% du temps, j'étais sur le podium. Il y a un truc. Tu vois, je me suis dit, y a pas, c'est pas le hasard, tu vois, il y a un truc. Et là, je me suis dit, ce serait pas mal de comprendre. Puis après, j'étais dans ma réflexion sur, ok, mais je fais quoi demain? Tu vois, je fais quoi demain? C'est quoi ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tu vois, je travaillais avec mes sponsors, tu vois, je faisais de l'organisation d'événements, je faisais du développement de matos, je faisais de la com, la pub, des trucs comme ça. Et tout ça, c'était sympa, mais j'avais l'impression de passer à côté de ce que le sport m'avait vraiment apporté. Du coup, j'ai commencé à me poser les questions autrement, tu vois. À me dire, plutôt que de me chercher un métier, savoir ce que je vais faire dans la vie, je me suis posé la question autrement en me disant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Donc, je réfléchis plus par rapport à un métier. Ma référence, c'est plus le métier. Mon critère de référence, c'est plus le métier. Parce qu'en fait, quand tu regardes bien, tu fais du sport, tu as des médailles. Des médailles, c'est pas des diplômes. Donc, il n'y a pas de métier pour toi. Tu vois? Bah ouais, t'as des médailles. Les médailles, c'est quoi? C'est l'expression de quoi? C'est l'expression de performance. C'est l'expression d'une expérience. Tu vois? Mais c'est pas l'expression d'un métier. Un diplôme, ouais, c'est fait pour faire un métier. Une médaille, c'est l'expression d'une expérience. Et, ni plus ni moins. Et du coup, là, je me suis dit, au lieu de me dire, réfléchir en termes de métier, qu'est-ce que je vais faire, dans la vie, je vais réfléchir en termes d'expérience. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie, tu vois? Et en quoi, finalement, mes médailles peuvent m'être utiles? Et tu vois, en renversant, en fait, la question, en changeant la question, tu changes de perspective, et en changeant de perspective, ça t'amène d'autres réponses. Et c'est là que je me suis dit, OK, je vais commencer à me tourner vers mes potes, parce que moi, j'étais un petit con, maintenant je deviens un gros con, parce que je sais toujours pas expliquer comment j'ai fait pour atteindre ces performances. Ce qui est quand même débile quand tu regardes bien. Alors, quand tu es en action, tu es sportif, bon, à la limite, tu te poses pas trop de questions, finalement, c'est pas mal. Mais quand tu as fini puis que tu es même pas capable de raconter pourquoi ou d'expliquer, pas de raconter, raconter ça c'est facile, tu prends de manière chronologique les choses puis tu racontes, mais expliquer et transmettre, c'est autre chose. Et là, tu vois, j'ai commencé à poser des questions et à dire à mon entourage, OK, pour toi, qu'est-ce que j'ai incarné, tu vois, c'est quoi qu'est-ce que j'ai incarné? Tu vois, c'est qu'est-ce que tu me reconnais comme qualité ou comme talent? Tu vois, dans ma carrière sportive, qu'est-ce qui t'a marqué? Tu vois, j'ai commencé à poser des questions comme ça autour de moi, des gens qui me connaissaient bien, très bien, d'autres qui me connaissaient pas ou moins bien, et c'était des discussions que j'avais, tu vois. Et en fait, ce qui ressortait le plus souvent, c'est Edgar, en fait, t'as dit que t'allais gagner, t'as gagné, t'étais au rendez-vous de la promesse, et ça, franchement, c'est génial. C'est la trace que j'ai laissée. Tu vois, c'est ce qui revenait le plus souvent. Je te le fais synthétique, parce que les gens, ils avaient pas toujours les mêmes mots, mais la synthèse, c'était ça. Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, OK, très bien, mais en quoi ça, je peux en faire un métier? Tu vois. Le fait d'être au rendez-vous d'une promesse, le fait de ci, de ça, tu vois. Il se trouve que voilà, c'est pour moi c'est pas du hasard, c'est de la synchronicité. Tu vois, parfois t'as des réflexions. Il ne peut y avoir de synchronicité qu'à partir du moment où tu te poses des questions. Je me posais la question de savoir ce que je voulais faire de ma vie. Je me posais la question de savoir en quoi finalement la trace que j'avais laissée, elle pouvait me permettre de vivre, de faire un job. Oui. Et il y a voilà, quand tu te poses ces questions, il y a la synchronicité. Et pourquoi il y a en fait la synchronicité, si on regarde un peu le truc, c'est normal qu'elle arrive en fait. Je suis pas un scientifique, tu vois, mais pour moi c'est complètement normal. Pourquoi je te dis ça? Parce que le fait que je me pose des questions, finalement, c'est que je suis ouvert aux messages qui passent, tu vois, aux réponses. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est en 99. Il y a un gars qui s'appelle Jean-Noël Gaume, consultant en motivation, en management et en motivation des ressources humaines, tu vois, spécialiste de la performance des organisations, qui fait une conférence à l'occasion d'un séminaire auquel j'étais convié parce que le patron de cette boîte me connaissait. Il m'avait dit, Edgar, j'aimerais bien, tu viens, tu nous racontes un peu ta vie, puis après tu nous emmènes skier. J'avais dit OK. Et donc moi, je suis venu, j'ai raconté 2-3 trucs, et puis après, j'ai écouté, il y a Jean-Noël Gaume qui est arrivé sur scène, et puis il a commencé à développer de manière théorique des choses que d'ailleurs Luc Guibert, le préparateur mental de l'équipe de France, nous avait nous avait dite à l'époque, tu vois. Mais voilà, j'étais pas réceptif. Tu vois, la synchronicité, c'est que j'étais pas réceptif à Luc Guibert en son temps. Par contre, là, j'étais réceptif parce que mon cerveau faisait de l'induction. Donc, j'étais réceptif à la synchronicité. Et quand j'ai écouté Jean-Noël Gaume parler de motivation, de la théorie, en fait, des théories autour de la motivation, de ce qui nous motive, de ce qui motive les gens, de la manière... J'ai trouvé ça, mais passionnant. Je me suis dit, c'est génial. Alors là, le mec, il me racontait ma vie. Tu vois, il m'expliquait en travers ce qu'il racontait. J'avais l'impression que enfin, ce qu'il me disait, je l'avais vécu et il me racontait ma vie, mais avec de la théorie. Et du coup, après, je suis allé le voir, je lui ai dit, c'est quoi ton métier? Je veux faire la même chose. Tu vois, et c'est parti comme ça. Tu vois, cette synchronicité, si je m'étais pas posé les questions, j'aurais trouvé cette conférence géniale, mais je serais pas allé voir Jean-Noël pour lui dire, je veux faire ton métier. Jean-Noël Gaume, tu vois, c'était en 99. Il y a 23 ans, je l'ai encore eu hier au téléphone. Tu vois, on s'est souhaité les vœux et il m'a dit, Edgar, il faut que je te transmette encore des trucs, j'ai plein de trucs. Tu vois, il m'a formé, il m'a emmené au Canada. Le premier truc, il m'a dit, bah, écoute, dans 3 semaines, je pars au Canada, je fais une conférence devant 800 chefs d'entreprise, tu viens avec moi. Je fais OK, donc, je paye mon billet, machin et tout. Tu vois, c'est parti comme ça. Et il m'a emmené, il m'a formé, il m'a emmené avec lui en séminaire, il m'a mis dans les pattes de ses équipes qui m'ont emmené en séminaire, qui m'ont fait comprendre le métier de conseil management et motivation des ressources humaines. J'ai fait des formations avec eux. On a bâti des formations. On allait les faire chez Auchan. On allait les faire chez à droite, à gauche, enfin, chez les clients. J'ai appris le métier sur le tas comme ça. C'était, c'était génial. C'était génial. Parce que, en fait, ça m'a ouvert, tu vois. Ça m'a permis de comprendre, ça m'a permis de mettre des mots, ça m'a permis de transmettre. Et voilà ce qui a fait que j'étais totalement hermétique. En fait, pendant que j'étais en compétition, j'étais hermétique à la préparation mentale. Tout simplement parce que là, je peux te dire pourquoi aujourd'hui. Tout simplement parce que, et je peux te le dire de manière théorique, tu vois. Tout simplement parce que j'avais 2 croyances ressources qui me suffisaient pour gagner. Tu vois, 2 croyances ressources. Et que quand t'as des croyances ressources, bah, t'as pas envie que quelqu'un vienne y toucher. Tu vois. Quand t'as des croyances limitantes, c'est difficile de les dépasser, mais il faut travailler dessus. Mais moi, j'avais pas de croyances limitantes. Et les 2 croyances ressources qui m'ont permis de tout gagner, elles sont simples. La première, je te l'ai déjà donnée. Le mental, c'est inné. Il y a des gens qui l'ont, d'autres qui l'ont pas. Moi, je l'ai, point barre. Tu vois? Première croyance ressource. Imagine si je pensais le contraire. je l'ai pas. Eh ben, évidemment. Derrière, le château de cartes s'écroule. Deuxième croyance ressource. Je suis meilleur en course qu'à l'entraînement. T'imagines tout ce que ça, tu vois, tout ce que ça, voilà. Alors, de manière théorique, une croyance, qu'est-ce que c'est? Tu vois. Il y a une phrase que j'aime bien, on dit, et ça se vérifie la plupart du temps, tu penses aux religieux, par exemple, on donne plus souvent raison à ses croyances qu'à la réalité. Tu vois. Donc, quand c'est une croyance ressource, moi, des fois, souvent, j'étais meilleur à l'entraînement et moins bon en course. Mais, je donnais raison à ma croyance, pas à la réalité. Tu vois? Et c'est ce qui faisait que, je traçais, j'avançais, tu vois? Ça me pénalisait pas, tu vois, parce que je faisais des entraînements, je pouvais foirer mes entraînements, je pouvais, ça me pénalisait pas. Je savais que de toute façon, en cours, j'allais tout casser. Tu vois, ça change tout, quoi. Et donc, en fait, je me suis commencé à me pencher dessus, il a fallu effectivement que je fasse un travail d'introspection, de comprendre ses croyances, d'où elles viennent, et puis comprendre ce que c'est qu'une croyance, comment finalement, si elle est ressource, la renforcer. Si elle est limitante, comment la travailler, la transformer. Et là, tu as des outils tels que la PNL, l'hypnose, l'hypnose ericksonienne, qui peuvent te permettre de transformer une croyance limitante en croyance ressource.
Ouais. Et aujourd'hui, là, avec le recul, et toi qui avais justement des croyances constructives, enfin des croyances ressources très constructives pour toi, aujourd'hui, c'est quoi tes routines, tes outils, toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu utilises encore aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de, comment dire, de grosses pressions, tu vois, qui fait que je devrais utiliser là. Et puis après, j'ai aussi une certaine, comment dire, tout ce que j'utilise, tout ce que j'ai découvert hein, dans les outils, parce que je suis formé au coaching, je me suis formé à tout un tas d'outils comme la ProcessCom, le DISC. Là, et ça c'est aussi quelque chose d'hyper important pour moi, c'est que je continue mes formations et je vais faire une formation sur les neurosciences qui commence en février, tu vois, qui va me prendre c'est 2x20 heures. C'est en digital et c'est hyper, enfin voilà, c'est hyper important, et des formations, voilà, j'en ai fait pas mal, j'ai fait du théâtre d'impro aussi pour les conférences, je fais des formations sur la prise de parole en public, tu vois, mais aussi bien sur le contenu en tant que tel, pour comprendre, tu vois, le contenu, ce que je raconte, que sur la manière de transmettre le contenu, tu vois, il y a les deux choses, tu vois, le fond, la forme, c'est hyper important de se former en permanence sur tous ces sujets là et donc je pense que quelque part, un des secrets pour avancer vers tes objectifs facilement, c'est de se former en permanence. Ça, c'est voilà. Parce qu'en fait, le fait de te former te permet d'ouvrir le champ des possibles. À chaque fois, de trouver de nouvelles, de nouvelles façons de faire, un peu plus, efficace. C'est-à-dire, en moins de temps, t'arrives à faire plus de chemin.
T'élargis ta zone de confort, quoi.
Voilà, t'élargis en fait le champ des possibles. Tu vois, t'es obligé de sortir de ta zone de confort pour élargir le champ des possibles, parce qu'en fait, tu t'aperçois que plus t'en apprends, moins t'en sais. Tu vois, c'est un peu, surtout, c'est un peu le drame du développement personnel, c'est que, en fait, l'humain a un tel potentiel, qui est tellement, enfin, on parle de pouvoir illimité, mais il y a un potentiel dont on connaît pas encore les frontières, plus t'en sais, moins t'en sais, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'arriver, c'est pas ce que tu sais, en fait, qui est important. C'est ce que tu fais à partir de ce que tu sais. Qu'est-ce que tu vas en faire de savoir, de ces connaissances? Comment tu vas les exploiter pour toi, les transmettre aux autres? Si dans ton job, c'est, tu dois les transmettre aux autres. Tu sais, moi, je connais des gens qui savent plein de choses, mais qui ont rien mis en place dans leur vie. Qui sont toujours au même stade. Et c'est ce que je trouve dommage. Parce qu'ils ont un tel savoir qui, s'ils pouvaient prendre un petit peu de recul et se l'appliquer à eux-mêmes, ça changerait tout, tu vois, dans leur vie.
Ouais, c'est vrai. C'est bien beau d'apprendre, mais il faut aussi savoir un peu passer à l'action et le transformer, tout ça. Bon, l'heure tourne et je m'étais engagé à te garder qu'une heure. J'ai trois petites questions pour la fin. C'est des petites questions que je pose à tous les invités. La première, c'est de savoir si tu avais une boule de cristal et que tu pouvais apprendre une chose sur toi dans 10-15 ans, qu'est-ce que tu voudrais savoir?
Est-ce que je ferais toujours du ski dans 10-15 ans? est-ce que j'ai besoin d'une boule de cristal pour ça? Le ski me passionne. Je pense que ça serait pas, c'est pas un gros secret, ça, mais c'est pas un gros mystère. Oui, je ferai toujours du ski, du sport. Dans 10, 15 ans, ouais, qu'est-ce que je voudrais savoir sur moi? C'est, j'aimerais bien savoir, quelle est l'ampleur, la taille de la communauté que j'ai réussi à fédérer.
Ok.
Puisque là, je suis au tout début et j'ai l'impression que c'est illimité et quand je vois ce qu'on apporte, quand je vois les 2 heures par exemple qu'on a passé hier en visio, en live, quand je vois les gens qui dansent, qui chantent, qui pleurent. Et quand je vois le en fait que tout ça est complètement n'a pas de limite, je me dis ouais, dans 10-15 ans, j'aimerais bien savoir.
Ouais. Bah c'est marrant, moi aussi j'aimerais bien savoir la taille de l'audience, tu vois, là aujourd'hui, je sais que à peu près, il y a 10 000 personnes qui écoutent chaque épisode, tu vois. Donc j'aimerais bien savoir dans 10-15 ans, est-ce que c'est, vu que c'est ma mission de vie et que je me verrais bien faire ça tout le temps. Donc, on se donne rendez-vous dans 10 ans pour voir où est-ce qu'on en est. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une phrase que les gens peuvent te dire régulièrement, mais qui te saoule et que tu n'aimerais plus écouter?
Il y en a une qu'on me dit régulièrement, mais elle me saoule pas. C'est comment vont tes genoux, tu vois.
C'est vrai.
Les gens me posent cette question. Ouais. Elle me saoule pas parce que je leur dis pas pourquoi les vôtres, ça va comment. Et donc ils me disent ah ben moi, tu vois, j'ai fait un peu de sport, mais tu vois, genre j'ai fait du rugby, j'ai fait du foot, j'ai fait de la course à pied, puis j'ai mal aux genoux et tout, tu vois. Je dis moi j'ai fait du ski de bosse, j'ai pas mal. Je dis le monde est injuste. C'est rigolo, j'ai pas mal aux genoux. Non, voilà, c'est vraiment la phrase qui revient, c'est-à-dire les gens sont inquiets pour mes genoux.
Ouais, c'est une croyance avec le ski de boss, quoi.
En fait, ils se rendent pas compte que pour 4 heures de ski, tu vois, dans une journée, t'as 8 heures de boulot, pour 4 heures de ski, il y avait 4 heures de prep physique derrière. Ouais. Et la plupart des gens, quand je les questionne, je leur dis, quand tu faisais du foot ou du rugby ou de la course à pied, tu t'échauffais combien de temps? Et puis tu faisais de la muscu pour faire du renforcement musculaire. Puis tout le monde te dit non. Tu vois, je dis bah voilà, t'as tout compris donc.
Ouais.
Le truc il est là.
Ok, bon bah merci de casser cette fausse croyance. Et la troisième question, bon après j'en ai une toute dernière, mais c'est si tu pouvais dîner avec n'importe qui sur Terre ce soir, vraiment la personne de ton choix, qui peut être partout à travers le monde pour passer 2 heures et boire un bon verre de vin et manger un super dîner, qui est-ce que tu choisirais?
Elon Musk.
Allez.
Ou Thomas Pesquet. L'un ou l'autre.
Petite préférence pour Thomas. Je pense qu'il doit être un peu plus drôle et un peu plus avenant. Et je pense qu'il est tout aussi talentueux et intelligent. Donc,
Non, mais c'est sûr. Enfin, c'est deux intelligences phénoménales. Ouais. Mais en fait, j'aime bien Elon Musk parce que il a une façon de penser que je trouve super inspirante. Un problème, 3 solutions. Voilà, en gros, c'est ça. Ce mec, il est là, il dit, j'ai un problème, je vais lui trouver 3 solutions. Mais surtout, et tu vois, ça revient à ce qu'on disait juste avant sur le fait de savoir, c'est bien d'avoir des connaissances, faut-il encore les mettre en œuvre. En fait, ce mec, ce qui est assez incroyable, c'est que lui, il met en œuvre les solutions. Tu vois, il a une idée. Parce qu'il a en fait une douleur, tu vois, ils appellent ça une pain, les Américains, tu vois, il y a un truc qui l'emmerde, il a un caillou dans la chaussure. Du coup, il cherche une idée pour retirer le caillou dans la chaussure, mais il n'en reste pas là.
Ouais.
Il se met en œuvre, il investit, il met des moyens, et tout ce qu'il fait, il le fait pour, tu vois, pour soulager la pain, tu vois, mais pour améliorer le monde, quoi. Et je pense que ça, ouais, c'est hyper inspirant, ça. C'est hyper inspirant.
T'as lu ou écouté sa biographie?
Non, justement. Ça fait partie des...
Cool, je te la recommande. Moi, je l'ai fait en livre audio, tu vois, durant mes footings, mes petites séances de ski aussi, mes petites séances de muscu. Et c'est très inspirant. C'est très inspirant. On pourra reparler en off. Moi, j'ai du mal à savoir ce que je peux en tirer parce qu'il est tellement intelligent. Alors, c'est peut-être une croyance limitante que j'ai, mais je le trouve tellement intelligent et tellement au-dessus que je me dis, mais qu'est-ce que quelqu'un comme moi, même avec beaucoup de ressources intellectuelles et beaucoup de ressources motivationnelles, est-ce que j'ai un savoir intellectuel qui est aussi enfin j'ai un savoir intellectuel qui est peut-être moindre, je me dis qu'est-ce que je peux retenir parce qu'il a un petit tu vois, il a été reconnu un peu autiste Asperger et tout, donc je me reconnais pas trop au personnage, tu vois, mais oui, énormément d'admiration en tout cas.
Il y a le personnage, il y a ce qu'il fait, mais c'est ça, moi j'aime bien, c'est finalement c'est sa mécanique, tu vois. Et tu vois, moi j'ai beaucoup, j'ai toujours admiré certains champions. J'ai eu la chance d'être pris sous l'aile de Jean-Claude Killy, et c'est pour moi quelqu'un pareil, enfin brillant, brillantissime, enfin voilà, quelqu'un vraiment redoutable, brillantissime, fantastique. Ouais. Et Et comme Elon Musk, tu vois, je serai jamais Jean-Claude Killy, je serai jamais Elon Musk. Mais ces gens, en fait, tu vois, ils ont une capacité, voilà, ils t'inspirent et voilà, il faut prendre ce qu'il y a à prendre pour toi. Et c'est ce que tu peux prendre, tu vois, même si c'est, si ça te paraît infime, ce que tu peux prendre d'eux, c'est ça qui compte, tu vois. Et voilà, tu vois, moi, Jean-Claude Killy, par exemple, il a mis un terme à sa carrière sur un triplé olympique. Et ben, quand je me posais la question de savoir si, quand est-ce que j'allais arrêter, ben, je me suis dit, ben, voilà, je suis pas Jean-Claude Killy, mais moi aussi, il faudrait que j'arrête par le haut, sur le, tu vois, sur un titre. Ouais. Tu vois, c'est tout bête, mais c'est comme ça que tu peux, en fait. Tu vas grandir et tu vas t'inspirer des gens. Parce qu'à un moment donné, ils donnent un exemple. Tu vois, ils ont c'est leur valeur d'exemple. Comment ça, tu vas te l'approprier? Tu vois, pour toi, dans ta vie, à ton niveau, tu vois, parce que on sera jamais Elon Musk, mais lui, il sera pas nous non plus. Tu vois, et comme tout le monde, il a ses travers. On a les nôtres, chacun les siens, tu vois, et il s'agit pas de se cloner. Il s'agit simplement de se dire, tiens, mais finalement, qu'est-ce que je peux apprendre de ces gens-là? C'est ça qui compte.
Ouais, mais c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que je peux apprendre finalement ou qu'est-ce que je peux copier entre guillemets sur moi, mais c'est pas évident. Merci beaucoup Edgar. La toute dernière question, c'est un petit peu c'est comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro, et c'est de savoir quelle est la prochaine personne que tu me recommandes d'aller interviewer sur le podcast pour parler histoire de sport, pour parler aventure, pour parler performance. Est-ce qu'il y a des noms qui te viennent en tête ou des personnes que tu connais que tu me recommandes d'aller interviewer?
Moi, Ty Chris, je sais pas si tu l'as déjà reçu, Ty.
Ah, Chris, pas encore, mais j'adorerais.
Qui est Ty, il est parmi comme il y en a beaucoup, hein. Mais Ty, j'aime beaucoup son histoire. C'est un autodidacte qui a fait plein de choses, qui a pas de limites, aujourd'hui. À une boîte, enfin voilà, qui a son image, qui cartonne, puis qui est à son image, c'est-à-dire un truc fou. Et ce mec, dans sa folie, il est génial. Et puis en plus, il a une telle énergie positive, t'as envie d'être à côté de lui, t'as envie de l'écouter, il te communique, c'est à travers ce qu'il raconte, tu vois, communique sa passion, cette énergie dingue. Ouais, je pense que ça, voilà. C'est quelqu'un que j'aimerais bien écouter à ton micro.
Bon, bah écoute, merci beaucoup de la recommandation. En plus, on m'a donné son contact il y a pas longtemps, juste avant les vacances, donc ça tombe à pic. Écoute, je vais lui envoyer un petit email dans la foulée. Et effectivement, je suis un grand grand fan de cet homme qui se met aucune limite et comme tu l'as dit, ouais, dès qu'il avance, quoi, tout simplement, et il crée des choses absolument fantastiques. Donc écoute, merci infiniment Edgar, j'ai passé un super moment, je me suis régalé, parce qu'en plus je sais que t'aimes bien prendre la parole et là tu nous as livré quelques petites anecdotes ou quelques petits tips que j'avais pas entendu ailleurs, donc je suis vraiment très content d'avoir passé ce moment là avec toi. J'espère que c'était un plaisir partagé. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite et pour cette nouvelle année?
Là franchement, merci enfin d'abord de ce que tu viens de dire. Moi aussi j'ai passé un super moment. Je trouve que, tu sais, à travers les questions, mais aussi à travers tes commentaires, ta manière de rebondir sur ce qu'on dit, c'est aussi un inspirant, apprenant. Moi je prends aussi pour moi tout ça, donc merci de m'avoir invité, fais confiance et apporté aussi, et écoute, tout va bien, donc pourvu que ça dure, quoi.
Bon, écoute, pourvu que ça dure, et puis on se donne rendez-vous dans 10 ans pour voir combien de personnes on a réussi à toucher.
Ouais, avec plaisir, merci beaucoup.
Salut Edgar, à bientôt.
Salut Barthélémy, ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.